15 janvier 1919. 15 janvier 1919, assassinat de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg ont tous deux été membres du Parti social-démocrate allemand. En parlant d'eux, surtout d'elle d'ailleurs, nous pouvons évoquer beaucoup de sujets essentiels comme la démocratie ou les luttes de libération nationale. Mais nous avons retenu l'antimilitarisme par lequel ils se sont opposés farouchement à la guerre de 14 au nom de l'internationalisme et contre la majorité de leur parti. Leur assassinat le 15 janvier 1919 par les corps francs du gouvernement social-démocrate sera suivi de celui de nombreux révolutionnaires allemands. Leur mort illustre ainsi parfaitement l'opposition entre réforme et révolution qu'ils ont contribué à mettre en lumière dans leur action militante. Et la date marque aussi peut-être le début de la fin pour l'extension et l'espoir de l'extension de la révolution en Europe.
Alors, là aussi c'est une date symbolique forte puisque la ligne de partage entre, pour le dire simplement, entre socialistes réformistes et un courant révolutionnaire, qui a été déterminée essentiellement d'ailleurs par leurs rapports respectifs à la Révolution d'octobre, comment ils l'ont comprise. Rosa Luxembourg, on le sait, a critiqué certains aspects. Sa critique aujourd'hui est particulièrement intéressante, puisque notamment mis en cause, non pas la dissolution d'ailleurs de l'Assemblée constituante, puisqu'il y avait une double représentation, la légitimité des soviets qui vient notamment d'ailleurs de l'insurrection d'octobre, et puis une Assemblée élue dont la majorité reflétait plus la Russie d'avant octobre, et toujours en retard la représentation sur l'évolution réelle. Donc elle ne remet pas en cause le fait d'avoir dispersé l'Assemblée constituante récemment élue à la fin de l'année 17, mais sa position n'est pas non plus de la supprimer totalement. C'est de dire qu'il faudrait organiser des nouvelles élections. Et derrière ça, la critique qu'elle fait, c'est que la démocratie qu'elle a fortement critiqué elle-même la démocratie parlementaire, mais qu'il faut faire la part des choses derrière, que ce n'est pas un luxe bourgeois, que c'est aussi une des conditions, le pluralisme de la presse, etc., de vitalité, et qu'une révolution qui devient autoritaire. Je crois qu'il y a une sensibilité chez elle très forte. Il n'y a pas une théorie de la bureaucratie, ça se saurait, mais il y a une prise de conscience de la logique bureaucratique, de la logique d'appareil dans les partis politiques. Alors ça rejoint un aspect de la question, c'est que cette prise de conscience a été lente. Il y a d'abord eu un débat d'orientation, disons. Je m'excuse de remonter là, mais c'est quand même la logique. Le débat au début du siècle, tout le monde est dans le même parti social-démocrate. Le débat naît chez Bernstein de l'idée que certains pronostics, peut-être abusifs, tirés de Marx, finalement ne se réalisent pas. La classe ouvrière est plus nombreuse et plus concentrée. Elle n'est pas beaucoup plus homogène, c'est-à-dire que l'unité n'est pas un produit spontané de la croissance sociologique du prolétariat industriel. Les classes moyennes ne disparaissent pas, elles se renouvellent, mais il n'y a pas une simplification entre des patrons, une poignée de patrons, une masse de travailleurs, la société reste plus complexe. Et puis l'appareil d'État lui-même n'est plus le simple veilleur de nuit et bande d'hommes armés. Il y a les services publics, il y a le ministère des Transports et des Postes, etc., etc. Donc on peut gagner des positions dans l'appareil d'État. Bon, mais du coup, l'idée, c'est que la social-démocratie, c'est une idée très forte à l'époque, n'a pas, Kautsky a une formule, n'a pas même à préparer une révolution. La révolution est quelque chose de naturel, qui est le résultat d'un mûrissement de la société qu'on accompagne. Le rôle du parti est un rôle purement de pédagogue. Il doit aider la conscience à mûrir. C'est à peu près ça la fonction qui est donnée. Et organiser cette conscience quand elle mûrit. Alors, le premier clash, c'est Rosa par rapport à ça, pas seulement elle, mais c'est une des premières quand même à le faire. À la lumière des grèves générales de Russie et de Belgique pour le suffrage universel, rétablit la part d'inventivité et de créativité d'un mouvement de masse spontané qui n'est ni décidé ni encadré par des appareils syndicaux et politiques. Il y a quelque chose qui vient d'en bas, il y a un socialisme d'en bas qui bouscule les routines bureaucratiques. À ça, ça va s'ajouter un deuxième élément, mais ça prend du temps, ça, ce débat est de 1902. Il faut attendre 1910-1912 pour que ce débat sur la grève générale se greffe sur une autre question qui est la question de la compréhension de ce qu'est l'appareil d'État. Et là, c'est autant Pannekoek, socialiste hollandais, que Rosa, qui dit « mais on a mal lu Marx ». En réalité, si on regarde bien certains textes classiques, qui d'ailleurs avaient été tenus sous le boisseau, comme la critique du programme de Gotha, en réalité, il dit qu'il faut détruire l'appareil d'État, qu'on ne peut pas le faire fonctionner tel qu'il a été conçu. Il est fonctionnel par rapport à une domination de classe. On ne peut pas simplement prendre un outil technique et dire « il va fonctionner ». Au service d'une autre classe. Il y a une transformation qualitative ou une destruction de l'appareil d'État. Bon, mais pourquoi j'insiste sur le fait que cette prise de conscience a duré et il a fallu enfin l'épreuve de vérité qu'a été l'attitude de la social-démocratie dans la guerre pour dire enfin cet appareil, ce n'était pas seulement des divergences d'opinion, il y avait quelque chose de pourri dans le parti qui fait que... presque comme un seul homme ou une seule femme, en 14, on s'est rallié au vote des crédits de guerre, etc. Et c'est tout le débat sur le pourquoi la faillite de la Deuxième Internationale, la brochure signée Junius de Rosa Luxembourg, qui là, bon, tire les conclusions. Alors, ça a une certaine importance par rapport à l'événement de l'assassinat et aux conséquences. D'abord, c'est que chez les réformistes, il y a des gens sincères, y compris honnêtes, pourquoi pas. Mais il y a aussi des assassins en puissance. Personnellement, je suis aujourd'hui complètement révolté d'entendre, je ne dis pas qu'elle nous passerait au peloton d'exécution, mais d'entendre Ségolène Royal se revendiquer de Rosa Luxembourg. Il aurait fallu au moins avoir l'honnêteté de dire que c'était quand même les bons sociodémocrates de l'époque qui l'avaient flingué. Bon, alors, par rapport à ça, le problème, je crois, c'est dans quelles conditions... C'est que, Le mûrissement d'une orientation alternative et la compréhension de la bureaucratisation de l'appareil social-démocrate s'est opéré sur une quinzaine d'années. Et du coup, à la différence de ce qui s'est passé en Russie, la composante révolutionnaire, parce qu'elle existait, de la grande social-démocratie allemande, n'est pas rentrée dans la guerre avec un projet indépendant. Même... tu disais ils n'ont pas voté les crédits de guerre au deuxième vote. Mais même Liebknecht les a votés d'un premier temps. Oui. Par discipline, par tout ce qu'on veut, mais les a votés au premier vote. Donc, et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que on peut comprendre les inerties. C'est une telle contre-société, la social-démocratie allemande. Elle a, je ne sais pas, 150, 180 quotidiens, journaux quotidiens, dans un pays de Länder, etc. C'est un appareil syndical et parlementaire colossal. Donc, comment rompre avec une telle force? On a toujours l'espoir qu'on va la corriger ou la redresser. Mais le fait de ne pas avoir pris conscience que cette rupture était inévitable... Les noyaux communistes allemands, communistes maintenus, sont sortis de la guerre, d'abord faibles, dispersés, et d'une certaine manière avec une lecture gauchiste de la révolution russe. Une interprétation, un tantinet putschiste qui va durer un certain temps dans le communisme allemand, hein, avec l'espèce d'insurrection artificielle de mars 21 qui va être une catastrophe... Qui va faire perdre la moitié de ses effectifs en quelques semaines au Parti communiste et qui va nourrir d'ailleurs la réflexion de l'international communiste sur comment corriger cette impatience juvénile ou infantile selon les goûts. Bon, mais ça existe à l'époque. Et par exemple, un des éléments qui a servi de prétexte à l'offensive contre les spartakistes, donc contre l'embryon du Parti communiste allemand en janvier 19, ça a été l'occupation du siège du Fort Wertz, du journal de la social-démocratie allemande. Bon, alors nous, on a connu depuis des scénarios de loin comparable. Il n'y a pas les conséquences historiques, mais au moment de l'affaire du Republica, pendant la Révolution portugaise, où le journal du Parti socialiste était bloqué par ses ouvriers communistes, etc. Bon, mais cette histoire-là, avec laquelle Rosa Luxembourg n'était pas d'accord, a précipité l'affrontement dans les mauvaises conditions. Bon, ça justifie absolument pas l'assassinat, les corps francs, mais on est dans un contexte de guerre civile. Alors, est-ce que les carottes sont cuites ? Est-ce que la décapitation, parce que ça n'est une quand même, du mouvement communiste allemand naissant, parce qu'on sait maintenant le temps qu'il faut pour développer une culture, une collectivité militante, etc., ayant rompu très tard avec la majorité social-démocrate, dans plus l'effervescence de la révolution russe de la fin de la guerre, bon, on a un parti qui est encore à peine en construction, qui vient d'adopter un programme, etc. Et je ne crois pas, c'est difficile, on peut le discuter effectivement. Est-ce que, en tout cas, cet assassinat a hypothéqué grandement la construction d'une équipe politique. On emploie peu le terme en France, mais en Italie, il y a toujours l'idée du groupe dirigeant, parce que il y a toute une réflexion sur comment s'est formé le noyau du Parti communiste italien, etc. C'est quelque chose qui a une certaine importance dans l'histoire d'un parti. Mais si on regarde ce qui s'est passé après, disons que les opportunités de relance, moi je reste là-dessus un peu classique. C'est-à-dire qu'il y a une séquence révolutionnaire allemande qui va de 18 à 23 et que l'échec, enfin, ce n'est peut-être que la conclusion ultime, mais de la révolution allemande, c'est l'échec de l'octobre allemand de 23. Peut-être que l'occasion était déjà perdue avant, mais elle s'est perdue en plusieurs moments. Hein. Tu as dit à juste titre, c'est bien sûr symboliquement c'est Liebknecht et Rosa, mais quelques mois après ou quelques semaines c'est Léo Jogiches, etc. C'est quand même toute une partie d'équipe militante qui a une histoire. Et puis ils perdent encore de grosses plumes après l'action de mars 21. Paul Lévy, dont on peut dire après coup, c'est un opportuniste. Mais enfin, ce n'est pas l'idée qu'en avait Lénine. Hein. Il disait, bon, dans cette affaire de l'insurrection, de l'action de mars 21, il dit, beaucoup de gens ont perdu la tête, mais Paul Lévy, au moins, avait une tête à perdre. Les autres étaient des écervelés. Bon, enfin, les autres. Hein. Certains des cadres du Comintern en particulier. Et après, il y a la fameuse histoire de l'insurrection, ratée ou pas, d'octobre 23, qui est relatée dans la tragédie de Hambourg par le bouquin de Jan Valtin, Sans patrie ni frontières, etc. Mais donc, c'est vrai que le problème en politique, c'est que les conséquences sont cumulatives et que chaque occasion perdue compromet la suivante. Ça ne veut pas dire que le cycle est clos, mais que ça devient beaucoup plus difficile de remonter la pente. Et janvier 19 a eu des conséquences probablement sur mars 21 ou sur octobre 23. Mais la conséquence de tout ça est énorme, elle est incalculable pour l'histoire du XXe siècle, pas pour l'Allemagne seulement, ni pour l'Allemagne et la Russie. Dans toute la perspective stratégique quand même des bolcheviks, était que la révolution russe... On n'avait pas commencé par le bon bout, mais on n'avait pas choisi. Mais avait de sens si c'était le coup d'envoi d'une révolution européenne. Et c'était pas se bercer d'illusions, parce que finalement, si on regarde ce qui s'est passé en quelques années en Italie avec les conseils ouvriers de Turin, avec la République des conseils de Bavière en Allemagne, avec la République des conseils de Hongrie et avec les mouvements en Autriche, il y a eu quasiment une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire européenne. Bon, et du coup, de l'échec de la révolution allemande, quand je dis ça a conditionné le siècle, et ça a probablement ou quasi certainement déterminé les conditions de la bureaucratisation. Elle aurait eu lieu, mais peut-être pas en débouchant sur les mêmes résultats en Russie. Et puis surtout, ça a conditionné la possibilité du nazisme. On évalue souvent, et même en comptabilité, le coût des révolutions et des guerres civiles, mais généralement, on oublie de calculer le coût des révolutions perdues ou des révolutions non faites. Et l'humanité a payé un prix exorbitant au XXe siècle à travers la victoire du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale, de l'échec de la Révolution allemande. Alors bon, aujourd'hui, c'est pour ça que les symboles, peut-être terminé par là, mais les symboles de Rosa Luxembourg, de Liebknecht, ben moi j'étais à la manifestation de Berlin en janvier 68, qui était une manifestation pour le Vietnam, internationale. Berlin était coupé en deux, il fallait traverser un bout de l'Allemagne de l'Est pour aller, etc. C'était super émouvant parce que on était 69, janvier 68, on était à un demi-siècle moins un de l'anniversaire de l'assassinat de Rosa Luxembourg. Et c'était... Et en gros, outre la solidarité avec le Vietnam, le mouvement étudiant allemand, etc., le symbole de cette manifestation, c'était aussi un hommage à Rosa Luxembourg.